Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui au Quorum, une loge du Quorum, une loge réservée au chef de l'orchestre, Michael Schoenwandt, qui est avec nous. Bonjour Michael Schoenwandt.
Bonjour à tout le monde.
Alors, nous venons vous voir à l'occasion d'une belle œuvre que vous allez donner, enfin un beau concert, parce qu'il y a deux œuvres dans le concert quand même. Ouais. Donc il y aura l'œuvre princeps, si je puis dire, le Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, une symphonie chorégraphique, comme il l'appelait lui-même. On pourra revenir un peu sur l'histoire de l'œuvre, puisqu'il vous séduit dans cette œuvre. Et puis une autre œuvre qui sera donnée en première partie de Thea Musgrave, dont on parlera aussi un petit peu. Alors, tout d'abord, Michael Schoenwandt, ce Daphnis et Chloé de Ravel, pas si souvent donné que ça, en fait, au concert, il me semble, parce que bah, il faut un cœur important.
Oui, je crois qu'on connaît beaucoup les deux suites, les antirènes du ballet, de suites orchestrales, purement orchestrales, mais c'est un ballet qui est écrit pour orchestre et chœur, et bien sûr danseur, qui dure une 55 minutes, des choses comme ça. Et c'est des pages peut-être les plus belles jamais écrites dans la musique française. C'est plein de couleurs, d'émotions, de virtuoses. Il y a vraiment tout dedans. C'est une partition d'exception.
Ouais. Alors que c'est une œuvre, je relisais ça, qui est né dans une certaine douleur, enfin, qui est en tout cas dans du conflit, puisque c'est une commande de... son nom m'échappe, des ballets russes.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Dès 1909, dès la première production des ballets russes à Paris. Et puis, ben, ça n'a pas été facile entre Diaghilev et Maurice Ravel. Voilà, le nom m'est revenu. Ouais. Serge Diaghilev.
Non, c'est deux grandes personnalités très différentes. Je n'ai pas l'âge d'avoir pu assister. Mais si on voit les personnages, Ravel qui était plutôt introverti et Diaghilev qui était très flamboyant. Et Ravel qui arrive avec ce monde assez particulier qui est son monde à lui, qui est très fin. Pas toujours très, très facile à comprendre tout de suite. Mais le raffinement, la finesse de Maurice Ravel, peut-être, ça a surpris Diaghilev, aussi parce que c'est tellement moderne comme dans sa structure, et pourtant extrêmement facile à écouter. Alors donc, je comprends très bien que ça aurait posé des problèmes, mais parfois, une naissance en douleur, ça peut donner un très beau bébé.
Oui, et en même temps, c'est une œuvre, si on évoque les ballets russes de ce temps-là, puisque l'œuvre première commence à être mise en travail en 1909, elle est créée en 1912.
Oui, c'est ça.
Et entre-temps, les ballets russes nous ont proposé...
Stravinsky,
de feu et Petrouchka, et puis l'année d'après, ce sera le Sacre du printemps.
Exactement.
Donc, ça paraît une œuvre un peu du passé, non, Daphnis et Chloé, dans ce monde-là.
Oui, c'est une autre culture, c'est une autre couleur qui s'installe là. C'est peut-être, comme vous dites, c'est peut-être... on regarde un peu vers le passé. Déjà, le sujet, un thème grec... C'est un peu... Mais c'est le monde de Ravel qui aime toujours ses pantomimes, les anciens contes, comme ça. Alors, je trouve que c'est extrêmement joli. J'adore profondément cette œuvre.
Alors, et puis, il y a une partie, je crois que c'est le final, où Ravel, on lui a demandé... son rapport à musique russe de Rimsky-Korsakov, pardon, et que sur la dernière partie, il disait qu'il s'était inspiré, c'était très simple, il avait ouvert la partition de Scheherazade et il avait recopié.
C'est pas tout à fait le cas, mais je vois la liaison, la façon d'utiliser le rythme, le grand orchestre, le côté percussion, les mélodies qui se mélangent, les grandes couleurs, parce que Rimsky-Korsakov, il était un grand peintre en son, et c'est pareil.
Grand coloriste du
ouais,
de l'orchestre.
Oui, c'est ça, exactement. Et Ravel encore plus. Je vois très bien la liaison, c'est pas C'est la modestie, la fausse modestie peut-être, ou la vraie modestie de la part de Ravel, de dire que j'ai juste copié Rimsky, mais c'est pas
oui,
ça.
Oui, on se doute bien qu'il y a, il y a un peu d'humour et de modestie cette répartie. Alors, et il y avait donc, il y a un chœur, et là ça va nous ramener un petit peu à votre goût aussi pour la... vos goûts personnels en matière de direction. Donc Daphné Sekto, il y a un cœur important. Il y a eu un conflit avec, je disais, avec Diaghilev qui a voulu donner à Londres, je crois en 1914, quelque chose comme ça, sans les chœurs. Et Ravel était absolument scandalisé. C'était une campagne dans la presse anglaise.
Il a quand même fait une version où c'est possible de jouer.
Alors que lui-même avait fait une réduction sans les chœurs.
Sans les chœurs, alors voilà, c'est la réalité.
Donc c'est un petit peu ambigu, voilà.
Oui, c'est ça, la réalité peut être brutale, parce que s'il y a un directeur qui dit « mais je ne joue pas ton œuvre, si on ne fait pas cette réduction sans chœur, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il faut vivre aussi.
Oui, absolument.
Et écouter
absolument.
Sa musique. Mais il est vrai que la dimension avec le chœur donne une tout à fait un autre monde. Et le chœur ne chante pas avec un texte, c'est que des voix qui sont un peu comme un corps des instruments.
Oui, un peu comme Villa-Lobos l'a fait dans sa Bacchanale. La voix est un instrument à part entière.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors c'est ce travail du chœur, apparemment c'est quelque chose que vous aimez bien, parce que dans ce que vous interprétez à la scène et puis dans les disques que vous avez pu enregistrer, on trouve beaucoup d'œuvres avec un chœur très important. Moi, j'ai découvert il y a peu, alors c'est un enregistrement ancien pour vous, mais c'était Bernard Herrmann et son Moby Dick.
Exactement, oui, c'est ça.
Voilà. Et puis, bientôt, un des derniers concerts que vous donnerez à Montpellier, ce sera avec le Requiem de Verdi.
Exactement. Ouais.
Donc, d'où vient cette passion pour la musique symphonique avec chœur?
Je veux dire, la base pour moi, pour la musique, c'est toujours la voix. Alors, on essaye toujours avec les instruments de chanter, de créer une sensation de son qui est chanté. C'est la première impression que nous avons comme un bébé avant d'être né, c'est quand même le son de la voix de la mère ou les bruits qui sont autour. Donc, si on arrive à travailler avec les voix, on peut transmettre des émotions les plus profondes. Et moi, j'ai toujours, dans toute ma carrière, j'ai essayé d'être moitié à l'opéra, moitié aux salles de concert. Et bon, de lier les deux choses, les voix et les instruments, pour moi, c'est tout à fait normal. Et d'où vient peut-être cet amour des grandes œuvres orchestrales avec chœur. Je trouve certains beaux concerts que nous avons faits ici, c'était justement avec les chœurs. Le War Requiem de Britten, il y a 5 ans, 6 ans, alors ça reste un très grand beau moment, je crois, pour nous tous. Et voilà, on va faire le Requiem aussi de Verdi dans 2 mois.
Voilà, oui, des œuvres monumentales,
ouais,
voilà. Avec une partie chorale impressionnant. Très c'est vrai que c'est des œuvres, si on enlève les chœurs...
mais il n'y a rien.
Il n'y a plus rien. C'est pas intéressant.
Ouais, c'est clair.
Alors, concernant plus particulièrement la musique de Ravel, alors, je n'ai pas fait vérifier tous vos programmes de concert, mais au disque, vous avez très peu enregistré Maurice Ravel.
Moi, j'ai fait Daphnis, mais ça fait quand même... presque 30 ans, quand j'étais directeur musical à Berlin, j'ai enregistré tout le Daphnis, j'ai enregistré Berlioz, le Requiem de Berlioz, là aussi, mais c'est pas un choix, ça arrive quand les gens offrent quelque chose, alors si c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je le fais, bien sûr. Mais il est vrai qu'il y a parfois des gens qui disent « Ah, un chef danois, il ne peut pas diriger Verdi ou il ne peut pas diriger la musique française. » C'est un peu comme ça, parfois.
Alors, du coup, ça m'a intrigué, et puis je suis allé voir d'un petit peu plus près. Mm-hmm. Et apparemment, il y a très peu de chefs scandinaves qui enregistrent, pour les directions, je ne sais pas, alors, tous les programmes de concert, c'est plus compliqué, mais qui ont enregistré Maurice Ravel, bon, sinon, bien sûr, le boléro, des petites pièces comme ça, mais une œuvre comme Daphnis, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'est ce que vous dites, cette représentation des producteurs que un chef scandinave ne faut pas diriger de la musique française?
Je ne sais pas, mais si on fait un disque, il faut les vendre aussi. Alors, peut-être ils disent que le public, quand ils regardent, il y a un chef français, il y a un chef danois. Alors prenons le disque avec le chef français. Bah, là, on est sûr. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis toujours senti très lié avec la France et la musique française. Je crois, parmi mes collègues nordiques, je crois que je suis la personne qui fait presque le plus la musique française.
D'accord. Donc c'était naturel que vous vous installiez à Montpellier pendant quelques années, alors?
Oui, mais ça fait 8 ans maintenant. Je vais terminer au bout de 8 ans. Non, c'est tout à fait naturel. Je suis très, très lié avec la culture française.
D'accord. Alors, il y a dans l'œuvre de Ravel, je lisais là des souvenirs du chef français Manuel Rosenthal, qui a bien connu Ravel, et qui disait qu'à l'époque, l'écriture de Ravel pour les instruments demandait aux instrumentistes des choses inhabituelles, improbables, difficiles, inaccoutumées. Est-ce que ça, on a encore ce côté-là aujourd'hui de partitions qui sont particulièrement exigeantes pour les interprètes?
Mais c'est une partition qui est extrêmement exigeante pour tout le monde, le chef, l'orchestre, les chœurs. À sa virtuosité, à sa rapidité de changement d'émotion. Mais techniquement, ça fait plus que 100 ans maintenant, après la création, le monde a évolué, et ça, c'est le cas avec tous les grands compositeurs. Ils cherchent toujours des nouveaux sons, nouvelles façons de jouer. Vous les voyez avec Stravinsky, avec Schoenberg. Dans une des premières grandes œuvres de Schoenberg, Il demande un glissando d'un trombone. Boum. Il explique en bas, je crois, trois lignes à quoi il pense. Parce que le glissando était quelque chose qu'on n'a pas fait sur le trombone avant. Maintenant, tout le monde fait boum, 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 sans rien, on le marque. Mais lui, il a eu besoin d'être presque une petite thèse pour expliquer au musicien.
Explication pour l'interprète, ouais, qui serait perdu.
Parce qu'il a, ouais, c'est ça, il n'a pas compris. Alors, bien sûr, tous les compositeurs cherchent de nouvelles sonorités. Et Maurice Ravel était un des plus grands chercheurs nouvelles sonorités et nouvelles combinaisons. Il combine les instruments d'une façon absolument sublime. Et il est inconnu.
Oui, c'est bien connu. Ça, c'est un orchestrateur hors pair.
Oui, c'est ça, un des plus grands.
Son œuvre la plus célèbre est un montage d'orchestration avec le boléro.
Oui, le boléro.
C'est d'abord une orchestration.
Oui, c'est un montage, vous avez raison.